La chasse. Le chef de la meute, nommé Tourka, monté sur un cheval gris, galopait en avant, coiffé d'un bonnet fourré, son corps de chasse en bandoulière, son couteau passé dans la ceinture. À son aspect rébarbatif et farouche, on eût cru qu'il se rendait bien plutôt à un combat mortel qu'à une simple chasse. Derrière lui, ondulaient les échines des chiens courants. Dès qu'on fut sorti de la cour, papa nous ordonna à tous de suivre la route et partit à travers champs. La large plaine, brûlée par le soleil, étincelait et n'était bornée que d'un côté par la lisière bleuissante d'une haute forêt, qui me semblait être l'endroit lointain et mystérieux où commencent les pays inhabités. Dans les champs, des meules et des paysans étaient éparpillés à perte de vue. Dans les seigles hauts, on voyait ça et là le dos courbé d'une moissonneuse, le balancement des épis quand on ramassait les gerbes. À l'ombre d'un arbre, une femme se penchait sur un berceau, au milieu de gerbes couchées, piquées ça et là de bleuets. Plus loin, des moudjiks en bras de chemise, debout sur des charrettes, entassaient les meules et faisaient voler la poussière du champ brûlé et desséché. Le starosta, le maire du village, son caftan jeté sur les épaules, son pantalon dans ses bottes, ayant aperçu papa de loin, ôta son chapeau de feutre, essuya sa tête rousse et sa barbe avec une serviette, et cria après les babas. Le petit cheval roux que montait papa marchait d'un trot léger et allègre, inclinant parfois sa tête sur la poitrine, tendant les brides, chassant de sa queue épaisse les mouches et les moustiques qui bourdonnaient autour de lui. Deux lévriers, la queue relevée en serpe et les pattes haut levées, bondissaient gracieusement autour du cheval. Milka courait en avant, puis s'arrêtait, quêtait un regard de mon père, puis repartait. Les conversations, le piétinement des chevaux, le roulement des charrettes, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes réunis en essaims compacts et immobiles, des odeurs d'absinthe, de chaume, de sueur des chevaux. Les jeux de lumières et de couleurs répandus sur cette plaine d'un jaune clair, le bleu de la forêt lointaine, le lilas pâle des nuages, le blanc des fils cotonneux qui voltigeaient dans l'air. Tout cela, je le voyais, l'entendais, le sentais. Quand nous arrivâmes sur la rivière de la forêt Kalinov, nous y trouvâmes la voiture des dames et, contre toute attente, une charrette sur laquelle se tenait un domestique chargé de victuailles. Au milieu d'un amas de foin, on apercevait le samovar, puis un petit tonnelet à faire de la glace et plusieurs paquets et boîtes, d'aspect engageant. Il n'y avait point à s'y tromper. Nous prendrions le thé sur l'herbe. Et il y aurait de plus de la glace et des fruits. À cette vue, nous exprimâmes bruyamment notre joie. Car prendre le thé sur l'herbe, et dans un endroit où personne n'en avait coutume de venir le prendre, avait pour nous un attrait particulier. Tourka entra dans la clairière, s'arrêta et écouta avec attention les ordres de papa concernant la chasse, ce qui ne l'engageait du reste nullement à les suivre, car il n'en faisait jamais qu'à sa tête. Puis il détacha les chiens, monta à cheval et disparut en sifflant derrière les jeunes bouleaux. Les lévriers manifestèrent leur joie en fouettant l'air de leur queue et en se secouant avec énergie. Après s'être flairés un instant les uns les autres, ils se dispersèrent au petit trot. « As-tu un mouchoir ?» me demanda mon père. Je tirai le mien de ma poche et le lui montrai. « Eh bien, attache ce chien gris. »« Jiran ?» demandai-je d'un ton de connaisseur. « Oui. Cours jusqu'à la route. Quand tu seras à la clairière, arrête-toi et attends. Et ne reviens pas sans un lièvre. » J'attachai mon mouchoir au cou velu de Jiran et nous partîmes de toute notre vitesse à l'endroit indiqué, ce qui fit rire mon père. Il me cria « Vite, vite, tu es en retard !» Jiran s'arrêtait à chaque instant, dressait les oreilles et écoutait les cris des chasseurs. La force me manquait pour l'entraîner. Je criais « À tout, à tout !» Alors, Jiran s'élança d'une telle force que je ne pouvais plus le retenir. Je tombai plusieurs fois en route, mais nous finîmes tout de même par arriver à notre poste. Je choisis un endroit couvert au pied d'un chêne et m'étendis sur l'herbe. Je fis asseoir Jiran près de moi et j'attendis. Mon imagination, comme il m'arrive toujours, devançait la réalité. Je me voyais déjà à l'affût de mon troisième lièvre lorsque les premiers abois des lévriers mis sur une piste retentirent. La voix de Tourka, qui s'animait à mesure et devenait de plus en plus forte, se fit entendre dans la forêt. Les aboiements se précipitaient, plus rapprochés de moi. À la voix de Tourka se mêla une autre, plus grave, puis une troisième, puis une quatrième. Par instants, le bruit s'apaisait, puis reprenait. Enfin, les voix se mêlèrent dans un vacarme sonore, faisant écho à travers la forêt. J'étais immobile à ma place. Les yeux fixés sur l'entrée de la forêt, je souriais stupidement et la sueur me coulait sur le visage. Mais j'étais tellement absorbée qu'en dépit d'un chatouillement désagréable au menton, je ne m'essuyais pas. Pour moi, c'était le moment décisif. Les lévriers se rapprochaient et s'éloignaient de mon poste, et toujours pas de lièvre. Je regardais de tous les côtés. Jiran m'imitait avec de petits cris d'impatience. Enfin, il se calma, il posa sa tête sur mes genoux et demeura immobile. Des fourmis couraient sur l'écorce desséchée du vieux chêne. Elles descendaient sur la terre aride qui entourait le tronc et allaient se perdre dans les brindilles, sous les feuilles mortes et parmi les glands tombés de l'arbre. Puis, elles s'enfonçaient dans les petites herbes encore vertes ou sous la mousse jaunâtre, et elles disparaissaient. Elles se hâtaient, marchant en file et suivant le sentier qu'elles s'étaient frayées, les unes portant des fardeaux et les autres à vide. Je pris une brindille et la posai en travers de leur route. Il fallait voir avec quel mépris du danger elles franchissaient l'obstacle, en l'escaladant ou en passant dessous. Mais les fourmis chargées ne savaient que faire. Elles s'arrêtaient, cherchaient une voie détournée, ou bien revenaient sur leurs pas, ou bien encore, arrivaient sur la brindille jusqu'à ma main, semblaient vouloir entrer dans la manche de ma veste. Je fus arrachée à cette intéressante contemplation par un papillon aux ailes jaunes, qui me donna la tentation de le prendre. Mais dès que j'eus porté mon attention sur lui, il voleta à deux pas de moi, en tournoyant quelques instants au-dessus d'une fleur blanche fanée, sur laquelle il finit par se poser. Je ne sais s'il se chauffait au soleil ou s'il puisait le suc de cette fleur, mais ce qui était visible, c'est qu'il se sentait à son aise. Il agitait par moments ses petites ailes et se serrait contre la fleur. Il finit par rester complètement immobile. J'appuyai ma tête sur mes mains et je contemplai l'insecte avec un vif plaisir. Soudain, Jiran poussa un hurlement et s'élança de sa place avec une telle force que je faillis tomber. Je me retournai et, à la lisière de la forêt, j'aperçus un lièvre qui, une oreille rabattue et l'autre au vent, courait en sautillant. Le sang me monta à la tête. Oubliant tout, je poussai un cri aigu et lâchai le chien que je suivis en courant. Mais à peine avais-je lâché Jiran que je m'en repentis. Le lièvre eut un mouvement de recul, fit un bond et disparut. Quelle ne fut pas ma honte quand je vis apparaître Tourka, qui précédait toute la meute des lévriers. Il s'était aperçu de ma faute. Il me jeta un coup d'œil de mépris et me dit simplement « Hé, Barin !» Il fallait entendre de quel ton cela fut dit. J'eusse préféré qu'il me suspendît à la selle comme un lièvre. Désespéré, je restai longtemps cloué à ma place. Je ne rappelais pas mon chien, et je répétais, en me frappant les cuisses, « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» La meute s'éloignait avec un bruit faiblissant. J'entendis des coups de fusil alternant avec des appels de cor. Je ne bougeais pas.